Magali va nous parler cet après-midi eh bien, d'une initiative pour que les patients Alzheimer puissent reprendre confiance en eux, également mieux s'exprimer à l'égard des autres. Eh bien, ça a été une initiative de leur proposer une activité de théâtre. Les bénéfices sont nombreux. Racontez-nous.
Bonjour. J'introduis juste vite fait, mais surtout, je vais vous faire partager une vidéo. Alors, l'expérience que vous allez voir, en fait, ce n'est pas une expérience qui s'est passée avec des résidents de notre EHPAD, mais plutôt des résidents d'EHPAD du groupe, puisqu'on a d'autres résidences qui n'accueillent que des personnes avec des troubles cognitifs. Et le projet était effectivement, autour du théâtre et d'une résidence théâtrale, de proposer une expérience de vie un peu différente et d'en étudier les bénéfices. Alors, c'est une étude très modeste, hein, puisque l'échantillonnage est assez limité. Mais l'idée, c'était vraiment d'observer le bénéfice à la fois sur la qualité de vie des personnes, mais également sur la qualité de vie des professionnels et des intervenants extérieurs, puisque pour le coup, il y avait des artistes. Je vous laisse d'abord découvrir l'extrait. Bon, alors, du coup, c'est un tout petit extrait. Le film plus grand, le film documentaire, il sortira en septembre 2024. C'est le même réalisateur qui a fait le film Prendre soin, si certains d'entre vous l'ont vu. L'idée, là, c'était vraiment de s'appuyer à la fois sur un environnement extérieur différent, mais de s'appuyer aussi sur la vie culturelle, le théâtre, pour en mesurer. Alors, en fait, à la base, c'était juste de proposer cette expérience et de la filmer, d'en faire un documentaire. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer d'évaluer l'impact sur la qualité de vie des personnes, sur la qualité de vie des professionnels qui accompagnaient. Donc, pour poser un peu le décor, alors, la maison que vous avez vue, c'est bien celle-ci. Donc, vous imaginez une maison avec des escaliers, pas d'ascenseur. C'est sûr, c'est une étude avec des biais parce que c'est 9 résidents, c'est 9 professionnels qui accompagnent, hein, donc il y a un nombre, mais ça pose aussi la question du nombre d'accompagnateurs dans nos lieux de vie, en fait. On peut aussi imaginer, enfin, penser comme biais des gens qui sont plutôt avec des troubles légers à modérés. Pour autant, peut-être que, et c'est une réflexion que je reposerai à la fin, mais peut-être que finalement, si on propose des expériences de vie comme ça à des personnes qui sont en stade léger et modéré, on pourra freiner, ralentir l'évolution. On a tous fait l'expérience, hein, je vais en reparler plus tard, mais on a tous fait l'expérience d'accompagner, alors que ce soit les gens qui travaillent en EHPAD, mais aussi vous, aidants, d'accompagner des gens avec des troubles cognitifs au restaurant, voir un spectacle, déjeuner chez des amis. Et puis là, comme par hasard, bah, les troubles s'évanouissent. On retrouve à nouveau la personne, on retrouve ses compétences, on retrouve tous ses potentiels. Donc c'est, je trouve, très intéressant. Il y avait 10 artistes, donc des comédiens professionnels. Et en l'occurrence, j'ai 2 collègues qui ont fait venir leur conjointe avec des enfants en bas âge. Donc 2 enfants, je dirais même presque 2 bébés, une petite fille de 30 mois et un nourrisson de 2 mois, qui ont également partagé l'expérience au quotidien pendant 15 jours. L'étude, elle se veut mixte. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une étude plutôt qualitative qui va... Alors, je vais vous mettre quelques brides après, hein, qui va se baser sur des entretiens semi-directifs qui ont été menés par une personne, un seul intervieweur. Vous voyez, là, il y a la représentation. Les 9 résidents ont été interviewés. On a interviewé 3 soignants et 4 accompagnateurs. Et puis, à côté, on a fait ce qu'on appelle les évaluations plus qualitatives avec des échelles. Et l'idée, c'était de mettre en lien à la fois le qualitatif et le quantitatif pour voir si vraiment il y a un impact et si on pouvait s'appuyer sur des résultats assez probants. Donc, on va revoir, hein, les échelles, mais c'est vraiment juste histoire de vous montrer. Ce que je trouve intéressant, c'est dans les entretiens. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu en plus gros des petites phrases qui sont choc. On est comme chez soi. On est tous d'accord pour se dire que quand ils se sentent comme à la maison, peu importe où les personnes sont, ça se passe vraiment mieux. J'aime bien aussi, je sens que ça me fait du bien, j'ai pas vu de soignant, je sais que je suis capable. Ouais, on sait. Pour autant, dans nos accompagnements, on a beau être le plus bienveillant possible, on a malheureusement tendance à quand même mettre en évidence la dépendance, le manque d'autonomie qu'on vient porter, hein. Mais l'intérêt, c'est peut-être justement de se tourner plutôt sur les capacités restantes, sur les compétences qui restent. Le côté sans étiquette de malade, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, effectivement, on ne parle plus de démence, mais je me souviens de Jean Maisonlieu qui a écrit le Crépuscule de la raison, qui dit c'est parce qu'on regarde les gens comme des démons qu'ils sont démons. Il s'appuyait sur une expérience, pareil, un peu extérieure, où ils ont fait une sortie, des vacances, des gens avec des troubles importants qui, finalement, en dehors des troubles, en dehors de la résidence, voyaient les troubles vraiment diminuer, voire disparaître. Et puis quand ils revenaient sur l'EHPAD, et là on va voir, c'est un petit peu ça, hein, les troubles réapparaissent. C'est comme si, finalement, quand vous étiez dans un lieu où on met les malades, bah forcément, vous êtes malade. Quand vous allez à l'hôpital, même si c'est pour une petite chose, hein, moi enfin, j'ai pu observer, j'ai pu le vivre aussi, ben, on est malade. On n'a pas forcément le moral, on se fait soigner. Très vite, on prend le côté un peu docile du patient dans son lit qui attend qu'on lui serve des choses. Enfin, voilà, on s'attribue cette étiquette de malade. On a les professionnels aussi, hein, qui ont pu s'exprimer sur leur vécu. De se dire qu'effectivement, bah, quand on est dans un comme à la maison, les repas ne sont pas servis, il faut les faire. Et donc les gens retrouvent comme ça cette autonomie de venir dire bah, « est-ce que je peux vous aider ?» Là où nous, d'habitude, on dit « est-ce qu'on peut vous aider ?» Bah, là, c'est eux qui venaient et qui disaient aux professionnels « est-ce qu'on peut vous aider ?» L'impact de l'intergénérationnel, hein, avec la présence des enfants, qui était vraiment très forte. Et puis le sentiment vraiment de... Alors ils leur disent un peu plus tard, mais le sentiment d'être ailleurs, enfin de pas être dans un lieu de soins. Et puis là, c'est les artistes et bénévoles, c'est intéressant aussi parce que c'est des gens qui sont pas formés à l'accompagnement des gens qui ont des troubles cognitifs, hein, de voir un petit peu comment le regard qu'ils portaient, et ce qu'ils en disent, c'est que vraiment ça a changé le regard qu'ils pouvaient porter sur des gens. Mais comme nous, en fait, et je l'observe chez certaines familles, c'est que quand on a des personnes qui, quand on accueille un nouveau résident au sein de notre résidence, par exemple. Souvent, l'entourage est un peu en difficulté de voir des personnes, des résidents plus avancés dans la maladie ou plus marqués physiquement, avec une dépendance, avec des troubles du comportement plus marqués. Et donc, au début, quand on ne connaît pas les gens, ce qu'on voit, c'est la maladie, c'est la différence. Et puis, petit à petit, ben, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, et même l'entourage, même les familles, en fait, hein, se lient d'amitié, se lient de liens positifs avec les personnes et ne voient plus les troubles. Et ça s'est fait assez rapidement, finalement, dans ce lieu-là. C'est ce qu'exprimaient aussi les artistes. Différence, plus de différence, quoi. En fait, finalement, on prône on est tous égaux, et ben là, ça pouvait se faire. Alors après, il y a les analyses statistiques. Donc là, c'est les tests qui ont été passés. Hein. Il y a l'échelle de qualité de vie, il y en a peut-être certains qui la connaissent. Et à chaque fois, vous avez le taux zéro, T0, l'intervention était 1 ou T2, je ne sais plus. Enfin bref, en gros, c'est de se dire, il y a une évaluation quand ils sont, puisque le groupe était constitué, donc avant de partir en séjour, pendant le séjour et au retour. Et donc vous allez voir qu'à chaque fois, finalement, les personnes, enfin le score, il est plutôt positif, il y a plutôt une amélioration. Là, en l'occurrence, on mesure comment ils se sentaient, eux, au niveau de leur état de santé. Quand on leur demandait comment ça allait plutôt bien, il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de plainte somatique. La qualité liée à l'environnement, ben ça c'est une vraie question pour aujourd'hui et pour demain. C'est vrai que je discutais tout à l'heure, je disais on parle toujours de l'EHPAD de demain, non mais c'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans nos environnements pour que ce soit plus positif? Et puis lié à l'autonomie, effectivement, je pense que quand on laisse plus de liberté aux gens, on laisse la liberté à l'autonomie de s'exprimer telle qu'elle peut être en fait. On est beaucoup dans la précaution, la sécurité, ben, prenons le risque de laisser faire, je pense qu'on serait surpris. Sur le NPI, effectivement, on a vu une baisse des comportements qui ont été évalués, donc plutôt l'agitation, l'anxiété, l'irritabilité, des inhibitions. Pas de modification des traitements. Donc là, il y a la liste des traitements qui étaient donnés. Le seul impact positif qui n'a pas forcément été tracé, puisqu'en fait, quand ce n'est pas donné, on ne sait pas tracer. Enfin, on ne l'a pas tracé. C'est que les 6 besoins, vous savez, alors pour ceux qui travaillent en structure, mais aussi pour le domicile, vous avez des fois vos médecins qui vous prescrivent un 6 besoins. S'il y a de l'anxiété à 17h, vous pouvez lui donner quelque chose en plus du traitement habituel. Ben là, les 6 besoins n'ont pas été nécessaires pendant 15 jours, ce qui est plutôt positif. Au niveau de tout ce qui est un peu santé globale, plutôt peu de modifications, notamment sur la nutrition, parce que finalement, j'ai envie de dire... Enfin, ça, c'est nul parce que je fais partie du groupe Elena, mais j'ai envie de dire qu'on mange quand même plutôt bien dans les EHPAD, contrairement à ce qu'on peut dire. On critique beaucoup, mais je trouve qu'on a bien compris que l'alimentation, ça restait un des derniers plaisirs. On n'entend que ça. Donc, je pense qu'on fait quand même assez attention. Donc, pas trop d'impact. Au niveau de la GDS, bon, ça reste légère amélioration, mais en l'occurrence, on était chez des gens qui étaient plutôt stabilisés au niveau... Donc, la GDS, c'est l'échelle de dépression. Une vraie diminution des chutes avec une expérience notamment d'une personne qui est arrivée avec une canne, qui dès le début du séjour a posé sa canne dans le hall d'entrée, qui ne l'a pas repris du séjour malgré les marches et les demi-marches, enfin les demi-étages, qui par contre, une fois revenu dans la résidence, a repris sa canne et qui aujourd'hui continue de marcher tout le temps avec sa canne. La seule interrogation de cette étude, c'est sur l'ADL et l'IADL, donc ce sont des échelles d'évaluation d'autonomie, qui, elle, montre plutôt une baisse, voire une stabilité, et puis une baisse au retour sur l'EHPAD. Bon, là, il y a une question, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que c'est, de toute façon, il y a une évolution et du coup, c'était la logique. Est-ce que c'est pas le bon outil à utiliser, parce que pour ceux qui l'utilisent, c'est vrai que c'est peut-être adapté sur certains moments de la vie, mais pas d'autres. En tout cas, voilà. Peut-être aussi que les personnes qui ont passé ne connaissaient pas bien cette échelle-là. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que sur tous les autres items, on a une corrélation entre les verbatims, donc ce que les gens ont pu dire, et les résultats des tests, alors que sur celui-ci, les verbatims sont plutôt « je me suis senti plus autonome », »,« j'ai été plus autonome », les professionnels remarquent que les gens étaient plus autonomes, mais les tests ont tendance à montrer le contraire. Donc ça reste une interrogation. Au niveau de la qualité du travail, alors à nouveau quelques mots, des mots sur les artistes qui donnaient plus l'impression d'être des aidants, leur laisser plus de liberté, vraiment cette notion de partage. Et alors ce qui est intéressant aussi au niveau des professionnels, c'est la pression et la charge mentale qu'on va retrouver d'ailleurs dans les évaluations statistiques. Ce qui s'est amélioré dans la qualité de vie au travail, c'est notamment l'exigence mentale qui a diminué. L'attitude décisionnelle, c'est l'impression d'être plus autonome, plus libre de penser et d'agir et de décider dans sa profession, et plus de soutien social entre les collègues, en fait. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que nos professions, en tout cas dans les milieux collectifs, dans les EHPAD, il y a des fiches de mission, il y a des fiches de tâches, il y a des plans de soins, il y a des plans de tâches, en fait. La personne qui arrive, qui est de matin, elle sait qu'elle doit faire ça, ça, ça. Il y a une vraie question à se poser sur la dimension un peu de liberté qu'on pourrait laisser aux professionnels et qui serait plus épanouissant dans le travail. Et on sait bien que quand on est épanoui, on va mieux, et quand on va mieux, on accompagne mieux. Donc il y a, je pense, une réflexion aussi à avoir de ce côté-là. En conclusion, du coup, c'est de se dire que même si c'est une petite étude, elle montre plutôt un impact positif sur la qualité de vie des résidents, une amélioration générale, en fait, que ce soit de l'état de santé physique, mais aussi de l'état de santé mentale. Quand on parle de l'état de santé mentale, c'est pas que le cognitif, en fait, c'est aussi l'humeur. L'aspect triste, dépression, l'anxiété. Et puis sur la qualité de vie au travail, l'idée c'est de se dire on en fait quoi en fait de tout ça. Et ça vient vraiment. Alors, je vous mets ça, mais c'est plutôt un échange qu'il faut qu'on ait. C'est de se dire finalement, on a peut-être là sur des expériences de vie comme ça, mais vous devez en avoir aussi. Alors, je parle là encore pour des gens qui accompagnent peut-être en séjour ou pour les aidants qui aussi vivent des petits séjours vacances. On a des vraies pistes au quotidien pour se dire, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui améliorent, il y a des choses qui apportent du positif. Ça passe par le lieu de vie. Alors, effectivement, on parle du domicile, on parle des EHPAD, on parle de. Je reviens sur l'EHPAD de demain, mais à mon sens, c'est aujourd'hui aussi qu'on peut questionner des choses. Il y a un réel impact de l'environnement sur la personne et sur nous aussi. Si vous êtes dans une pièce, tout à l'heure, monsieur, vous disiez il fait chaud, est-ce qu'on peut pas ouvrir ? Quand on est dans une pièce et que c'est confortable, on va beaucoup plus apprécier, même si c'est pas très intéressant, que si on est dans une pièce surchauffée, même si c'était très intéressant, très vite, on va se dire vivement que ça se termine et que j'aille prendre l'air. Donc l'impact de l'environnement, l'impact des sensations, de ce que ça a sur nous. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. On dit qu'il faut que les gens ils se sentent chez eux au sein de l'EHPAD. Comment on fait ? La notion de droit, de liberté, ça, c'est une vraie question d'éthique. On sait bien que les personnes qui ont des troubles cognitifs, et notamment des gens qui se perdent, qui sortent beaucoup, qui ont besoin de bouger, sont des gens qui vont entrer en EHPAD, et notamment en unité sécurisée, pour les protéger. Pour autant, on les prive de leur liberté. Et là, je vais livrer une expérience qui a été vécue récemment, nous, au sein de l'EHPAD. Ils sont partis une semaine en vacances avec six résidents, dont un monsieur qui est effectivement géolocalisé, parce qu'il part et qu'on n'a pas envie d'être tout le temps derrière lui, d'une résidence qui est sécurisée. Et en fait, durant le séjour, il n'a pas du tout cherché à partir. J'ai une autre expérience qui est de se dire, quand la porte elle est fermée, on s'acharne sur les portes, et dès qu'elle est ouverte, finalement, je ne sors pas. Je m'assois face à la porte et je vois qu'elle est ouverte. Quand je sais que je peux sortir librement, je ne cherche pas à me libérer. D'ailleurs, j'en ai peut-être même pas envie de me libérer. Parce que je sais que si j'ai envie de le faire, je pourrais le faire. Par contre, si je n'ai pas cette liberté-là, effectivement, peut-être que je vais aller la chercher. Juste pour m'assurer que si les portes étaient toutes fermées, qu'il est l'heure de partir et qu'on se dit « Ah mince, on va tous aller vérifier qu'on peut l'ouvrir. » Et si on peut l'ouvrir, je me rassure tranquillement, je vais attendre que ça se passe. Ça, c'est vraiment aussi un impact à questionner. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'accomplissement professionnel, qui est intéressant à penser, et l'inclusion des familles, de l'intergénérationnel, fin de continuer à vivre, finalement, tel qu'on le fait aujourd'hui, tous mélangés, à se croiser, et en incluant de l'art, en incluant du chant, en incluant du théâtre, en incluant des choses qui vont nous permettre de nous épanouir et de continuer à nous épanouir, même si on a des troubles cognitifs. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Magali, pour ce partage. Est-ce que, suite à la présentation de cette expérience de Magali, est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors, quels étaient les critères d'inclusion pour les résidents qui ont été sélectionnés ?
C'était des résidents qui participaient déjà au théâtre. En fait, c'est une résidence qui est déjà proactive sur le théâtre, qui a monté une pièce il y a 2-3 ans, qui a fait le tour de la France dans les résidences du groupe. Donc, c'était des gens qui avaient une appétence pour le théâtre. Au niveau autonomie, je pense que... alors, je me base sur nous, l'inclusion au théâtre qu'on a sur notre, au sein de notre résidence, c'est de ne pas mettre les gens en échec au niveau de la verbalisation. Au niveau autonomie, il y avait la question du fauteuil, c'est sûr, puisque c'était des escaliers. Donc, il ne fallait pas des gens en fauteuil. La résidence qui a organisé ça, en fait, qui a participé, c'est une résidence qui n'accueille aussi que des gens avec des troubles cognitifs, qui fonctionne sur un mode assez libre, finalement, dans la résidence. Les gens peuvent passer d'un étage à l'autre. Les ascenseurs sont libres. Il y a des étages, mais il n'y a pas d'unité de vie, en fait. Il n'y a pas de notion de fermeture.
Oui, moi, je voulais partager une expérience. Alors, moi, je suis de la maison des aidants. Donc, nous, on revient d'un séjour d'une semaine à l'île de Ré avec des aidants et des aidés qui ont permis, effectivement, de s'évader pendant une semaine et d'être des vacanciers ordinaires sur une île magnifique, hein, parce que l'île de Ré reste toujours une destination très prisée. Et juste pour dire qu'au retour, on a déjà vu, effectivement... des changements de comportement au niveau des aidants, nous notamment, avec effectivement des échanges de conseils, de dispositifs de répit, et moi mon mari il va là, il tient, oui, comment tu fais ? Et essayer déjà de s'inscrire sur certains dispositifs qui existent sur Nantes pour pouvoir se retrouver du temps, pour se retrouver elle entre copines, ce qu'elles ne peuvent plus faire parce que la maladie a un petit peu des fois estompé les relations sociales. Donc voilà, on voit qu'effectivement, sorti d'un contexte où la maladie ne prend pas toute la place, on peut arriver à faire des choses très différentes.
Merci beaucoup Magali d'être venue nous parler de cette expérimentation.